France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Mina Cavani. J'ai adoré l'émotion en fait que vous arrivez à faire passer, aussi bien la tristesse, la joie, la colère, le sentiment de déchirement qui jalonne le livre tout du long. C'est saisissant en fait.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Littérature, terre d'exil, cette semaine dans votre Book Club, une série de 4 émissions sur des livres qui embrassent ce thème chacun sa façon. Pour ouvrir cette série, nous recevons aujourd'hui la comédienne et autrice Mina Cavani. Elle quitte Téhéran pour faire du théâtre et vivre, croit-elle, une vie d'insouciance et de liberté à Paris. Apparaissant nue quelques années plus tard dans un film iranien engagé, elle est conspuée, bannie de son pays et souffre de ce non-retour. Dans son livre « Dérangé », elle raconte la permanence de l'exil en elle, mais qui a précédé en fait son départ réel. Ce livre est une façon d'explorer tous les déracinements. Mina Cavani est notre invitée. Nouvelle résidente pour la rubrique Lecture d'Actu, c'est l'autrice Clémentine Mélois qui embarque avec nous chaque lundi pendant 6 semaines et nous propose de lire ou relire des textes en fonction d'un fait d'actualité. Aujourd'hui, c'est l'arrivée de la course maritime Le Vendée Globe qui lui fait convoquer les héros du grand large. En fin d'émission, on cherche toujours de la musique dans les livres. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Mina Cavani.
Bonjour.
Votre livre « Dérangé » a paru aux éditions du Faubourg. Soyez la bienvenue dans le Book Club. Le Book Club est un endroit que vous connaissez car vous avez eu la gentillesse de déballer et la générosité de déballer pour nous votre bibliothèque. J'invite nos auditeurs et nos auditrices à vous réécouter, parler de la lecture, parler de votre bibliothèque ici et ailleurs. On ne va pas refaire tout un portrait de vous en tant que lectrice. Vous aviez parlé à l'époque d'Ingeborg Bachmann, vous aviez parlé de la figure de Dracula, vous aviez parlé de la poétesse Farrukh Farrukhzade, mais aussi de Marguerite Duras. C'est de votre amour pour son livre « L'amant ». Tout ça, c'est à réécouter sur franceculture.fr, mais n'empêche qu'on ne change pas nos habitudes et qu'ici, pour commencer les émissions, on se demande comment vont nos invités en tant que lecteurs et lectrices. Donc, comment vous allez-vous en tant que lectrice, Mina Cavani, en ce moment ?
Eh bien, en ce moment, c'est assez particulier pour moi parce que déjà, j'étais en pleine tournée pour mon spectacle, donc vraiment, littéralement, ça fait 2 mois que je ne cesse pas de travailler et surtout que en fait je suis en pleine préparation de mon prochain spectacle qui sera au théâtre Bouffe du Nord et ce sera sur Farrukh Farrukhzade. Donc je suis en plein dedans et en fait quand je travaille sur quelque chose j'arrive pas à lire autre chose, j'arrive pas à me donc je suis en plein dans Farrukh Farrukhzade et mes recherches pour Farrukh Farrukhzade.
Mais du coup vous la lisez beaucoup, vous ne lisez qu'elle, vous êtes plongée dans ce que vous aimez d'elle ou vous faites aussi un travail documentaire?
Je fais beaucoup aussi un travail documentaire de parce qu'elle a écrit quand même beaucoup des journaux intimes, des lettres, des textes, des petites histoires, il y a vraiment énormément de documents qui existent par elle, donc je fais une espèce de, en fait c'est une adaptation quelque part que je suis en train de faire, donc c'est pas, je vais pas faire une autobiographie de sa vie, je ferai surtout une, ça va être quelque part modestement mon point de vue sur elle en fait. Oui, mon point de vue sur elle, je ne sais pas si ça se dit ça.
Absolument.
Et donc, en fait, voilà, c'est une espèce de montage que je fais. Et aussi, au milieu de tout ça, je rajoute mes textes à moi-même. Donc, je suis en plein dedans, en fait. Je ne fais que ça en ce moment.
On va adapter, lors de ces 4 prochaines émissions, ce questionnaire lecture à cette thématique, à ce mot-là d'exil dont nous allons parler tout à l'heure, y compris pour le réfuter, y compris pour dire que peut-être vous en avez marre, mais pour l'instant, on l'utilise encore un petit peu, ce mot-là. Est-ce que vous vous souvenez d'un livre ou de plusieurs livres avec lesquels vous seriez partie de Téhéran la dernière fois, Mina Cavani ?
Oui, je me souviens même en détail. En fait, alors il y avait quelques différentes catégories. Il y avait des livres que j'ai pris parce que je savais que j'allais entrer au Conservatoire de Paris et que on allait étudier le théâtre en priori. Et donc j'ai pris beaucoup de pièces de théâtre, mais traduites en persan parce que voilà, ça c'était pour m'aider moi-même pour que je puisse avoir dans ma langue maternelle aussi. Donc je me souviens, il y avait Lorca, il y avait Molière, il y avait Jean-Luc Lagarce, il y avait qu'est-ce qu'il y avait comme... Il y avait Peter Hanke, il y en avait beaucoup. Il y avait Shakespeare, pas mal de Shakespeare.
Tout en farsi.
Il y avait Brecht, la bonne femme de Sichuan, je me souviens très bien. Et après, ça, c'était des livres, voilà, pour le travail que j'avais pris. Il y avait des livres que j'ai pris parce que, pour moi, c'était important spirituellement, qui ne sont pas forcément des livres que je retourne les lire forcément tout le temps, mais c'est important pour moi qu'ils soient là. Je pense que je vous en avais déjà parlé de ça dans notre précédente émission. C'était La Divine Comédie de Dante, parce que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, malgré mon très jeune âge, je pense que ça, c'est mon côté un peu spirituel qui faisait ça. J'adorais lire le livre sur l'enfer, sur paradis, sur purgatoire. J'adorais ça. Alors, je pense que peut-être je ne comprenais pas forcément à ce moment-là la même manière que je comprends maintenant aujourd'hui, mais j'adorais ça. Donc, j'ai pris les trois, qui étaient quand même des gros, gros livres. Et j'ai pris aussi quelques livres de poésie de Ahmad Chamlou, notre grand poète contemporain, et aussi de Sohrab Seberi et aussi de Foulour Farrokhzad. Ça, c'était des livres. Après, je peux pas prendre plus parce que ma valise avait une.
Et les livres sont encore avec vous?
Ah oui. Mmh. Ah oui, bien sûr.
Est-ce que dans vos lectures passées ou depuis ce départ-là important, Mina Kaveni, vous avez rencontré un personnage masculin, féminin, non-genré qui serait pour vous l'exil ou l'exilé par excellence?
Alors je vais commencer vraiment en premier par Foulour Farrokhzad parce que comme je vous ai dit, je suis en plein dedans et pour moi c'est littéralement une figure en exil. Alors, pas l'exil. Certes, elle a été en exil en Italie et en Europe pendant quelques temps, mais c'est surtout sa façon d'être, sa présence dans la vie, son rapport avec les êtres humains, son rapport avec la vie, les hommes, tout. Et c'est une femme... Mais même avant qu'elle quitte l'Iran, pour moi, c'est un personnage entièrement en exil. Foulour Farrokhzad.
C'est quelque chose qu'elle utilise comme mot dans sa poésie, le fait de se sentir exilé, y compris chez soi, qui est quelque chose dont on va beaucoup parler avec vous, parce que vous ne réduisez pas votre récit de l'exil au fait d'avoir quitté votre pays. Pour vous, il y a vraiment la question d'être exilé en soi-même, y compris quand on est chez soi, mais on y viendra.
C'est vrai.
Pour elle, pour Foulour Farrokhzad, c'est un mot qu'elle utilise aussi?
Un mot, je me souviens pas précisément, mais il y a en permanence quelque chose qui la ramène à une sorte de solitude, toujours. Et ça, c'est même quand avant qu'elle quitte l'Iran. En fait, pour moi, quand je parle de Foulour Farrokhzad, pour moi, un personnage en exil, c'est je parle surtout pas de l'exil que moi je
géographique
le... Ah oui, c'est vraiment un exil presque philosophique, existentialisme et très
intérieur.
Oui, c'est ça. Je pense qu'elle se sent complètement en décalage avec les êtres humains qui l'entourent. Mais même quand elle quitte l'Iran, mais même à l'étranger, elle vit ça. Alors que elle a pas quitté la République islamique. Elle, hein, c'est... Donc il y a pas forcément un mot qui vient, mais il y a des phrases, il y a beaucoup de choses quand même chez elle qui la ramène à une sorte de solitude très très profonde.
Et vous vouliez évoquer quelqu'un d'autre? Vous avez dit je vais commencer par elle comme personnage,
Oui,
rencontré dans la littérature.
Alors, l'autre, elle n'est pas du tout iranienne, c'est Marguerite Duras, toujours pour moi. C'est quelqu'un que pour moi elle est, je sais pas, je me reconnais énormément en elle et différemment, alors vraiment différemment, dans complètement un autre endroit que...
Mais exilée aussi pour vous, vous pensez, Marguerite Duras? Du reste, elle a connu le déplacement géographique très fortement, puisqu'elle...
Oui, moi je pense que quand même, oui. Oui, je pense que même ce qu'elle vivait par rapport à tout ce qu'elle vivait en amour, toutes ces histoires passionnées qu'elle vivait, et qu'elle n'avait pas la possibilité d'en parler avec ses proches, et que même ce qu'elle vivait politiquement autour d'elle... Oui, je pense que quand même, c'est pour moi, c'est un personnage en exil, Marguerite Duras, oui.
Est-ce qu'il y a un livre pour vous, Mina Kaveni, qui pourrait être un pays, un endroit où se sentir chez soi?
Euh, Non. Alors non, sincèrement, j'ai pas un, il y a pas un livre que je me sens. Ça peut être dans le sens concret du pays, non, mais dans le sens spirituel, oui. Par exemple, tous les grands livres des grands soufis de la culture persane, par exemple Atoll dans les conférences des oiseaux, je pense que c'est quelque chose qui est un peu mon pays un peu spirituel, comme ça, oui, quand j'ai besoin un peu me détacher du monde, quand j'ai besoin un peu de comment dire, me sentir un peu, quand j'ai besoin de me centrer un peu, exactement, dans la vie, que je me perds, quand je me perds, en fait, je retourne lire ça parce que ça me rappelle un peu le chemin que je dois suivre spirituellement. Donc ça, c'est peut-être les livres dans lesquels je peux me sentir un peu chez moi, mais spirituellement, mais jamais chez moi concrètement dans un pays, comme un pays, jamais.
On vous a transmis l'idée que les livres, c'était un endroit où on pouvait justement se retrouver spirituellement, Mina Cavani? C'est quelque chose qu'on vous a raconté? Vous l'avez découvert?
Non, je pense qu'on ne nous a pas raconté, mais je pense que ça s'est lié vraiment, vraiment. Ça, c'est peut-être avec les années que j'ai compris plus tard. C'est lié à la culture soufie de qui existe en Iran, en Perse ancien. Par exemple, voilà, ça, tout ce qui existe avec cette philosophie-là, un peu spiritualité et tout. Du coup, quand on était petit, on était habitué à lire des toutes ces grandes histoires qui existaient, inventées par toutes ces grands poètes, ces grands soufis, pour qu'on comprenne pourquoi on est là dans le monde, qu'est-ce qu'on fait déjà là sur la terre.
Et ça marchait, ça vous permettait de comprendre?
Quand j'étais petite, non, pas du tout. Mais quand je suis venue en France, oui. C'est très étrange. Mais quand j'étais en Iran, pour moi, c'était un peu, j'imagine un peu pour vous, hein, pour moi, c'était des leçons que j'étais obligée d'apprendre à l'école, ou que tout le monde savait ça. Et non, j'avais un rapport assez éloigné avec ça, et j'étais pas forcément dans la spiritualité quand j'étais à Téhéran.
Qu'est-ce qu'on trouve dans la conférence des oiseaux qui vous donne cette peut-être possibilité de vous retrouver quand vous vous sentez perdu?
Toutes ces 7 étapes qu'on doit parcourir pour arriver, pour trouver son, comme on dit dans les conférences des oiseaux, Simur, c'est-à-dire le roi qui cherche. En fait, toutes les étapes qu'on doit parcourir pour arriver à notre but. Et en fait, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que un but n'existe pas. En fait, ça n'existe. C'est le chemin qui compte. Bon, c'est très spirituel ce que je dis là.
ça va.
Mais
le chemin qui compte, ça peut être aussi très concret.
Ouais, mais ouais, c'est tous les chemins qu'on est obligé de que voilà, chacune de cette étape est tellement dure, tellement mais comment on peut les surpasser pour arriver à l'autre, et comment du coup tu arrives à ton toi que tu n'as pas eu l'accès, mais qu'en passant ces étapes tu arrives à ton soi de je sais pas
de
si
soi.
C'est pas très clair, c'est ce que je dis, mais
hyper clair. Mais on va parler de votre livre À vous, Dérangé, paru aux éditions du Faubourg, juste après cette chanson qui s'appelle Azizam, de la musicienne iranienne Liraz. La chanson s'appelle donc Azizam.
Thank you.
Nous sommes tous les héritiers d'une maladie. La mienne et celle de ma famille est de ne jamais appartenir à l'endroit où tu es. Vos mots, Mina Cavani, pour ouvrir une série d'émissions autour de l'exil. Quatre livres qui, d'une façon ou d'une autre, parlent d'exil. Dans Déranger, l'exil au bout des lèvres, vous racontez votre départ de Téhéran, la rencontre du théâtre à Paris, le fait de se sentir étrangère au Conservatoire National, les tournages avec vos compatriotes et cette scène dénudée qui vous empêchera de retrouver l'Iran depuis des années. Vous racontez aussi votre enfance, l'uniforme de la République islamique pour aller à l'école, mais aussi les fêtes, les groupes de rock, l'alcool, la fumée dans les fêtes underground, mais encore les histoires fabuleuses entendues à 12 ans dans les nuages d'opium. En fait, l'exil était déjà là, dans la vie que vous dites schizophrène, une vie que vous obligeait à vivre le régime. Cependant, vous l'écrivez, ce que vous imaginiez n'a rien à voir avec ce que vous vivez finalement en France. Un trouble s'est installé où s'exile votre corps, votre identité sexuelle, votre langue, je suis moi-même inversée, c'est encore vos mots. Déranger, l'exil au bord des lèvres, apparu aux éditions Faubourg. Tout à l'heure, j'ai dit que on allait avoir comme mot maître pendant toute cette série d'émissions Mina Cavani le mot exil. Or, il y a plusieurs moments dans votre livre où vous dites que vous en avez marre, que ce mot-là, finalement, bien sûr, il raconte des choses de vous, il raconte des choses de vous après votre départ, il raconte des choses de vous avant votre départ, mais vous ne voudriez pas qu'il vous permette de trop vous définir, vous voudriez parfois vous en débarrasser.
Absolument, oui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je suis tellement... traumatisée, c'est peut-être un peu trop le mot, mais je n'ai pas d'autres mots, mais c'est vrai que je suis tellement marquée par d'être tout le temps dans une cadre, que ce soit le cadre de la République islamique, après le cadre d'être étrangère, après le... En fait, j'ai envie de me débarrasser de tous ces titres, de toutes ces... Moi, je peux avoir une sensation, des émotions, de vivre quelque chose qui est l'exil, qui fait que j'ai envie de créer un spectacle, qui fait que j'ai envie d'écrire, mais j'aime pas quand les gens ils m'associent à ça comme si maintenant je ne suis qu'un être humain qui est exilé. En fait, j'aime pas ça. J'aimerais que les gens sachent que avant d'être exilé, je suis un être humain et l'exil fait partie de mon chemin et maintenant voilà, partout c'est on m'associe avec ce statut exilé comme on m'associe avec le statut réfugié politique, comme enfin j'aimerais être débarrassée de tous ces titres, de toute cette cadre, de toutes ces titres.
Est-ce que c'est pour ça que ce livre qui reprend pour une part le texte d'une pièce de théâtre que vous avez créée, que vous jouiez sur scène, Mina Cavani, c'est l'exil au bord des lèvres? Ça veut dire quoi, ce bord des lèvres? Parce que quand on dit au bord des lèvres, c'est parfois quand on n'ose pas prononcer quelque chose, parfois c'est quand on n'y arrive pas. Vous, ça veut dire quoi, ce au bord des lèvres?
Il faudrait savoir que en fait ce titre ils ont pris aussi de titre d'un critique qu'ils ont fait sur le spectacle et en fait j'ai beaucoup aimé ce titre parce que ça représentait énormément mon état, parce que ça me donnait l'impression, c'était très physique en fait, ce que j'aimais dans ce titre c'était très physique, parce que je pense que l'exil plus que un état mental ça se transforme en quelque chose de très physique, c'est presque dans ton corps,
ça passe par quoi, par exemple? Vous diriez, si c'est très physique, ces sensations, j'imagine que c'est pas tout le temps et tous les jours la même chose, mais ça passe par quelles sensations physiques?
Je peux pas le dire concrètement, là, parce que ça, ce qui est incroyable, c'est que ça se transforme beaucoup, ça change, ça, au fur et à mesure, la forme change, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça, parce que j'avais l'impression que, ce journaliste qui est l'œil d'Olivier, que je le salue lundi ici, il a vraiment très bien compris, parce que il a, et comme si, moi, en tout cas, peut-être, je l'ai mal compris, mais je l'ai compris comme ça, et ça m'a plu. c'est que c'est comme si l'exil qui est presque là et qui est presque en débordement, et j'aime bien cette image parce que c'était un peu mon état mais c'est important pour moi de dire que ce spectacle, ça part de l'exil, mais ça parle surtout de la liberté, ça part surtout d'une sensation de vouloir se débarrasser des chaînes, en fait. Pour moi, ça parle surtout de ça plutôt que de enfermement. Certes, je raconte enfermement, mais je raconte enfermement pour arriver à une autre stade qui est un peu un désir en moi que j'ai envie tout le temps l'obtenir, qui est une espèce de liberté dans tout mon corps et toute mon âme.
D'ailleurs, les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait l'imaginer, parce que parfois, à vous lire Mina Cavani ou à vous voir sur scène, vous pouvez raconter des très grandes scènes de liberté, de joie, de libération, d'exaltation, de désir et de fête à Téhéran, sous la République islamique, avant de quitter votre pays. Ça pourrait être... Il y a des très grandes scènes de liberté, ouais. Comme vous pouvez raconter des très grandes scènes, finalement, de sensations d'enfermement, une fois que vous êtes à Paris et que vous êtes censée vivre votre meilleure vie de jeune femme libre qui fait du théâtre. Donc, c'est pas si simple que ça. Par ailleurs, vous dites aussi tout l'enfermement politique, la condition de la petite fille que vous étiez, etc. Mais il y a une complexité dans le rapport entre la liberté et l'exil dans ce texte-là qui ne met pas les choses toujours au même endroit.
Absolument. Et ça, c'était vraiment mon but. C'est-à-dire que c'était justement cette complexité-là qui m'intéressait énormément. C'est que, voilà, on a vécu, que j'étais à Téhéran, j'étais sous un régime qui est complètement oppressant, qui est la République islamique. Oui, on était en uniforme de la République islamique. Mais je vivais mes années les plus libres de ma vie dans ma tête. C'est dingue quand même. C'est très contradictoire, que les gens ils peuvent pas forcément savoir ça.
Bah parce que c'est difficile à se figurer.
C'est difficile à figurer, bien sûr. Et après, je viens en France, je viens à Paris, à ce pays dont j'adore par ailleurs, mais que moi j'avais fantasmé des choses vraiment. Et puis je me retrouve dans une solitude absolue et une solitude qui m'a énormément traumatisée, je pense. Ça a été une choc pour moi, cette contradiction énorme. Là, je vis un peu l'étouffement, dépression, mélancolie. Alors, je parle pas de ma vie maintenant. Ce livre raconte une période de ma vie qui est heureusement passée. Mais je le précise parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question et donc cette fois-ci je le précise que ça correspond à une période de ma vie qui est passée mais quand même qui est philosophiquement important pour moi aujourd'hui encore parce que ça fait partie de moi toujours mais autrement.
Est-ce que vous vous sentiez autorisée à dire ça justement, Mina Cavani, à dire voilà, j'ai quitté ce pays pour plein de raisons et puis surtout je ne peux plus y revenir pour d'autres raisons, mais pourtant c'est pas si facile que ça pour moi maintenant. Est-ce que c'était facile de s'autoriser à le penser, c'est-à-dire comme si vous aviez une sorte de programme de liberté et ne pas trouver cette liberté ou cette joie escomptée aurait pu comme être interdit de le ressentir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Et vous voulez dire vis-à-vis des autres ?
Oui, vis-à-vis des autres. Est-ce que vous arriviez à dire, en fait, non. Je suis censée avoir tous les ingrédients pour que ça aille, et en fait, non.
Là où ça n'a pas été facile, c'est surtout... C'est-à-dire que je pense que personne, vraiment peut-être à part ma mère, je parle des Iraniens, c'était très difficile pour les gens de pouvoir accepter que je peux, voilà, je ça c'est mon chemin ou ça c'est mon choix. Ça n'a pas été facile en fait. Non, ça n'a pas été facile du tout même. Mais bon, je l'ai fait parce que je suis sauvage quand même.
Dans les trajectoires d'exil, souvent, le moment ou les moments de départ sont des moments qui sont fort gravés dans la mémoire. Vous en racontez un de ces moments-là, Mina Cavani.
Je me souviens exactement de cet instant-là. Il était 5 heures du matin, j'ai pris ma valise, je m'apprêtais à monter dans la voiture de mon père pour aller à l'aéroport. Et avant qu'il démarre, juste avant, mon regard a croisé celui de mon chien, qui me fixait à travers la fenêtre de la cuisine, qui donnait sur la rue. Et dans le regard de mon chien, au fond de ses yeux, j'ai vu tout à coup une tristesse énorme. À cet instant-là, j'ai eu l'impression que peut-être je ne reverrai plus jamais cet endroit, que peut-être on ne se reverrait plus jamais. D'un coup, j'ai été envahi par une terrible angoisse, une angoisse qui ne m'a plus jamais quitté en réalité. Quand j'y pense, c'était même avant d'avoir croisé le regard terrifiant de mon chien. Tout, ce matin-là, était terrifiant. Même les petits mots d'amour de ma mère et ses gestes, même le bruit de la cafetière sur le gaz. C'était comme si le temps avait ralenti. C'était comme si les objets et les odeurs prenaient de l'intensité. C'était comme si c'était la dernière fois que j'allais les voir, tous ces objets. La dernière fois que j'allais sentir toutes ces odeurs. J'enregistrais tout, plan par plan. Mais même le vent doux du mois de septembre, qui me ramenait l'odeur du jasmin, ne m'apaisait plus. Tout était angoissant. Il était 5h du matin. Mon père me souriait, il m'a dit « Tu vas rater ton avion ». Il souriait pour me calmer un peu. Il a bien dû sentir que je n'étais pas bien, que j'étais à deux doigts de tout lâcher. Pourquoi je partirais? Pourquoi je ne resterais pas là? Je suis enfin monté dans la voiture de mon père. Avec mon chien, on ne se quittait pas du regard jusqu'à ce que la voiture s'éloigne complètement. C'était comme si j'étais quelques instants près de la mort. On est parti. On ne s'est plus jamais revu. Je n'ai plus jamais revu cet endroit. Je veux seulement, entre nous, fumer une cigarette. Je veux seulement respirer un peu, entre sauvages.
Un extrait de votre livre « Déranger l'exil au bord des lèvres » paru aux éditions du Faubourg, Mina Cavani. Ce moment-là, et la trace qu'il a laissée en vous, c'est un moment de plus jamais, de la terreur, par exemple, transmise par le chien qui vous voit partir et qui peut-être lui aussi se dit « je ne la reverrai plus jamais ». C'est ce plus jamais-là qui est terrifiant.
Oui, parce que ce moment existait vraiment. Il y a des endroits dans la pièce qui est inventé par ma tête. Par exemple, le moment de cauchemar, le dîner familial, parce que ça passe dans ma tête, ça passe dans mon rêve, dans mon cauchemar. Mais ce moment-là existait. Et je me souviens, comme je le dis dans la pièce, je me souviens en détail de ce moment-là. Et je pense que la chose la plus terrifiante pour moi, c'était cette... Enfin, si je dis ça, les Français, peut-être, ils se moquent de moi. Mais c'est vrai que ma séparation avec mon chien, ça a été très terrifiant. Et c'était... Enfin, on a presque grandi ensemble avec ce chien. Et je me souviens vraiment, il me regardait. Mais comme, et j'ai vu dans ses yeux que comme s'il savait que j'allais plus jamais revenir. Et je ne l'ai plus jamais revu. Quelques années plus tard, il est mort d'un cancer. Et un an après, cette maison s'est effondrée par le travaux qui a été fait par la maison qui était collée à cette maison, une erreur
architecture. Vraiment plus jamais.
Donc ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait même peur que je parte de cette maison. Mon chien meurt et la maison s'est effondrée. Cette maison s'est effondrée et je n'ai plus jamais revu cette maison et je n'ai plus jamais
vu ce chien.
Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça, c'était la dernière fois que j'ai vu. Non, dans ma tête, je fais une mélange de calendrier en fait. Le chien, je l'ai vu une dernière fois en 2013 quand je suis allée en Iran, dans la deuxième maison. Mais la maison, je l'ai plus jamais revue. Et la maison et voilà. Et je ne suis plus jamais retournée depuis 2013. Ouais.
Il y a quelque chose aussi dans cette scène-là où vous êtes encore une fois au bord, le sous-titre de ce livre, L'exil au bord des lèvres, c'est que vous êtes presque rattrapé. Vous vous dites, mais au final, est-ce que je vais le faire? Pourquoi est-ce que je pars? Est-ce que je pourrais pas rester? Donc c'est le premier départ, Mina Cavani. Et en fait, il y a plein de moments dans le livre où vous questionnez ce départ. Vous questionnez votre départ, mais vous questionnez aussi la place de vos parents, leur histoire à eux dans l'histoire politique de l'Iran. Puis quand vous êtes en France, vous questionnez aussi ceux qui font le choix de partir de leur pays. Est-ce que c'est une bonne idée? Ceux qui n'y sont pas contraints, en tout cas. Comme si l'exil, c'était aussi en permanence une question jamais résolue.
Absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors voilà, ça, c'est peut-être même, j'ai envie de vous dire que ça, c'est la question qui m'a obsédée le plus pendant toutes ces années, depuis ma sortie d'Iran, chez les Iraniens, chez la jeunesse iranienne, notamment.
Partir ou rester?
Partir. En fait, ce qui est incroyable, c'est que depuis, ce que je dis dans les livres aussi, hein, c'est qu'en fait, depuis petite, on te fait habituer avec cette idée, avec cette pensée, que ton bonheur, ton avenir, c'est ailleurs. Et c'est ailleurs que tu vas être heureux. Et en fait, toi, psychologiquement depuis l'enfance. Tu n'arrives jamais à vraiment t'intégrer avec la société dans laquelle tu es. Tu es toujours, en fait, tu es toujours en départ. On est toujours en départ. Et même quand je vois mes amis dispersés dans le monde, que ce soit à Paris, à New York, à Londres, à Berlin, tous, ils sont dans quelque chose que, comme si on est tout le temps en départ, comme si on n'est jamais installé, comme si on est des nomades. Je sais pas comment vous dire. En fait, c'est marrant. On a des appartements, on a une vie, on a nos amis, on a une vie normale en apparence. Mais moi, je le vois. Moi, je le reconnais quand je vois mes amis iraniens, quand je vois un peu leur façon d'être, un peu leur manière de changer, de.
Et donc les valises, elles sont jamais posées, en fait. C'est jamais calmé.
C'est jamais calmé. C'est-à-dire, il y a une espèce de toujours un état. Notre état, c'est un état de dépendance. Et comme si on cherche notre ciel, comme si on cherche notre pays, comme si on cherche notre bonheur.
Que vous avez même reproché, en tout cas ce que vous reprochez dans ce texte-là, la voix de la narratrice qui parle, on va dire, Mina Cavani, lorsque vous vous adressez à vos parents, je ne sais plus si c'est dans le cauchemar ou à un autre moment, mais vous dites, mais même quand on était petit, vous ne nous avez même pas laissé la possibilité d'aimer là où nous étions. C'est-à-dire que c'était toujours un combat et vous ne nous avez même pas donné les outils pour trouver beau ce qui nous entourait. Alors, il y avait des raisons de ne pas trouver beau ce qui nous entourait, bien sûr. Il y avait des raisons à ce combat, il y avait des raisons pour certaines familles d'espérer que vous partiez. Mais vous dites que ce faisant, c'est comme si vous et votre génération, vous n'aviez pas eu les outils pour un jour vous sentir quelque part chez vous et contenter, quoi, d'une certaine manière.
Oui, parce que, alors, c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, dans mon âge aujourd'hui, je dis, mais je ne veux jamais vivre en Iran, je ne veux jamais vivre sous le régime de République islamique, je veux jamais tout ça. Mais la vérité, c'est que, c'était une grande question qui m'obsédait pendant des années, que je me disais, mais oui, ok, mais à quel prix? À quel prix on doit fuir tout ça? Très bien, on fuit la dictature, on fuit la République islamique, on fuit. Mais est-ce qu'on est vraiment heureux? Et ça, c'est incroyable parce que moi, quand j'étais en plein d'écriture de ce texte, Jafar Panahi m'a proposé de jouer dans son film Aucun ours et dans lequel j'ai un grand monologue à dire. Et il a écrit, on dirait que c'est moi qui ai écrit, en fait, ce monologue de ce personnage. Il dit pourquoi on doit partir pour être heureux? Qui a dit qu'en partant, on va être plus heureux? Encore une fois, entre parenthèses, aujourd'hui, j'ai
une partie. Oui, la question ne se pose pas de votre rapport à ce que vous pensez du régime politique. C'est pas ça que vous soulevez, j'ai l'impression.
Non, mais même encore aujourd'hui, j'ai encore envie d'en faire des projets là-dessus. Même encore aujourd'hui, c'est pas encore résolu dans ma tête et que j'ai envie d'aller encore plus creuser cette question-là, en plus en groupe maintenant la prochaine fois, j'espère. C'est que on quitte notre pays pour fuir la dictature et après on retombe dans quelque chose on tombe dans une autre spirale et même à un moment je le dis dans le texte, je dis étrangement, même dans son fascisme pur, son élégante dictature, mais le sentir ce pays, le sentir, vivre ce pays, vivre dans ce pays, même s'il y a le fascisme, même s'il y a la dictature, mais être dans mon pays, à côté de mes proches.
Mais peut-être que vous le dites aussi et que vous avez la possibilité de le dire et de le regretter parce que vous êtes aujourd'hui capable de dire cette chose-là librement à la radio.
C'est vrai.
Capable de jouer au théâtre, sur une scène, de pouvoir.
C'est vrai.
Fumer comme vous voulez, chanter comme vous voulez.
Oui, c'est vrai.
C'est ça qui est toujours très délicat à penser d'une certaine façon. Vous racontez aussi tous les déracinements, Mina Cavani, y compris des déracinements très intimes, de se sentir de quel genre, par exemple. C'est très beau la manière dont vous invitez la question d'être exilé en soi-même sur la question de la sexualité, de l'amour. Ce n'est pas que le déracinement terrestre. Et c'est ce qu'a relevé Julie en vous lisant, auditrice du Book Club, et elle vous adresse une question justement sur comment faire un et ne pas être morcelé.
Bonjour le Book Club, bonjour Mina Cavani. Alors déjà, ce que j'ai aimé avant de parcourir vos mots, c'est vraiment les photos en noir et blanc qui jalonnent le livre. Elles sont d'une puissance. J'ai beaucoup apprécié aussi ce moment où vous expliquez comment on se sent quand il y a cette étiquette qui est posée de réfugié politique, ce que ça emmène aussi. Et je voulais terminer en vous demandant qu'est-ce qui vous permet de rester une? Merci pour votre réponse.
Merci à vous, Julie, pour cette question. Et en effet, vous mentionnez, vous le faites bien, les très belles photos qui chapitrent le texte de Mina Cavani. Comment faites-vous, la question est immense, comment faites-vous pour rester une?
Alors déjà, je serai jamais une, je serai toujours deux, parce que j'ai un frère jumeau, j'ai envie de déjà dire ça. Donc j'ai toujours un double, et je pense que ce côté double, ça fait partie de mon destin, un peu. Et parce que aussi, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Et même aujourd'hui, malgré que j'ai écrit cette pièce et que ces textes, aujourd'hui, je pense que je suis... mon identité fait partie. C'est aussi tout ce que j'ai vécu en Iran, mais tout ce que j'ai vécu en France. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui, on me ramène en Iran, je serais perdue, je me perdrais en fait, je me sentirais autant étrangère que j'ai pu me sentir étrangère quand je suis arrivée en France. Et donc aujourd'hui, je suis une autre personne qui est mélangée de tout ça, et j'adore, et je suis très heureuse, et je suis très fière de ma décision, même si j'ai eu des années obscures, mais je pense qu'aujourd'hui je me reconnais avec le mélange de tout ça, comme ce qui existe pour moi en tant qu'actrice, c'est-à-dire que l'actrice que je suis devenue modestement aujourd'hui, c'est le mélange de tout ce que j'ai appris en Iran, mais c'est aussi tout ce que j'ai appris en France, et sans l'un et l'autre n'existe pas ce que je suis aujourd'hui. Et donc,
est-ce qu'une façon d'être une, puisqu'on parle aujourd'hui de votre livre, Mina Cavani, c'est pas de pouvoir le raconter, ça? Une façon d'être unie et de pouvoir exister en tant qu'être, sans nier la dualité qui vous habite, mais simplement l'écrire, c'est une façon de se rassembler?
C'est une façon de se rassembler, mais c'est aussi parce que je pense que j'ai pas besoin d'être seulement qu'une.
Ouais.
C'est ce que je dis aussi dans la pièce, c'est que je dis oui, j'ai fait ça, oui, j'ai pris cette décision, peut-être oui, je suis devenue déprimée, triste ou tout ce que vous voulez, mais à la fin du spectacle, j'espère que les spectateurs y comprennent ça aussi, ou dans la pièce que je dis oui, mais finalement je suis vivante parce que j'ai pris un risque. Parce que quand je dis que si vous fermez vos yeux à vos rêves de peur de tomber dans le cauchemar, vous êtes morts, vous deviendrez des cadavres vivants et vous trahirez le sang chaud qui circule dans vos veines et vous n'avez pas le courage d'imaginer votre vie. Parce que je crois profondément que si on reste des gens petits à avoir peur tout le temps, que si on fait ça, qu'est-ce qui va nous ramener? Oh là là, qu'est-ce qui va nous passer à notre vie? On reste petit et on ne bougera pas.
Oui, vous passez votre temps à parler du désir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous embrassez ça.
Ah oui, moi je pense qu'il faut... C'est-à-dire que pour moi c'est même... Alors les gens ils me disent dans les critiques c'est une ode à la liberté, mais pour moi c'est une ode à la désir, au désir, pardon. C'est une ode au désir, à la passion, à envie, des désirs, et je resterai toujours comme ça. C'est ce que c'est d'ailleurs mes derniers mots dans la pièce. Je dis je resterai toujours une rêveuse. Alors je perdrai toujours quelque chose, mais je préfère rester ça. C'est-à-dire, je pense que profondément, c'est ce que j'aime le plus et que... Voilà, je suis contente.
On va écouter la voix d'un metteur en scène, il s'appelle Christian Lupa, il est au micro de Laura Adler, c'est une archive de 2018, ah. Mina Cavani. Vous parlez aussi beaucoup de votre circulation entre les langues, et bien il va parler de ça.
Lorsque je travaille avec des comédiens, je me réfère souvent à cette langue de chien. Le comédien en a besoin en lui. Et lorsqu'on s'exprime dans une langue, que ce soit le français ou le polonais, on ne fait que créer une sorte de façade. Il n'y a pas d'entrée vers l'intérieur. Je dis souvent à mes comédiens, imaginons un chien qui va vers son lac, qu'il adore. Et comment ce chien peut penser? De quelle manière il peut exprimer sa volonté vers le lac puisqu'il n'a pas de mots? On peut se dire que ça passe par des images. Il a une vision du lac, plutôt d'une onde, d'une profondeur. Mais en même temps, c'est l'annonce d'un plaisir qui s'y trouve. L'annonce d'un mystère qu'il retrouve là-bas. On peut se dire qu'un chien a aussi son propre mystère. Il peut avoir sa propre métaphysique, bien entendu, exprimée à travers ce langage dessiné, imagé. Je dirais que ce sont des chemins élémentaires auxquels nous pouvons descendre pour échapper ainsi à cette tricherie, à ce mensonge qui est apporté à l'homme par la langue.
Échapper au mensonge et à la tricherie apportée à l'homme par la langue et rejoindre la langue du chien. Incroyable archive du metteur en scène Christiane Loupa. Vous parlez, Mina Cavani, évidemment, dans ce livre, L'exil au bord des lèvres, de votre rapport aux langues, à la langue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à partir de ce que vient de dire Christiane Loupa? D'ailleurs, je n'avais pas pensé à ce lien avec le regard du chien.
Déjà, j'ai envie de dire que je peux l'écouter des heures et des heures et des heures. Et c'est l'un des artistes qui m'a bouleversé le plus dans ma vie entière. Et il me bouleversera toujours. J'ai eu la chance de faire deux stages avec lui qui m'a vraiment bouleversée. Je l'ai vécu ça et je sais très bien de quoi il parle et c'est très vrai. C'est-à-dire que quand on est prisonnière dans sa propre langue, je sais pas pourquoi quand on est dans une zone ou dans un zone confort, on a moins l'accès à nos langues de chien, comme dit Christiane. Il y a quelque chose de qui nous comme si la forme nous prisonnie, comme si la forme et l'esthétique nous bloque. Et en fait, moi, quand je suis venue en France et que j'ai commencé à jouer en français, c'est-à-dire la langue dans laquelle j'étais moins à l'aise, j'étais moins confortable, je me sentais moins en sécurité. Étrangement, j'avais l'accès à des choses en moi que je n'avais jamais l'accès quand je jouais en persan. Et vous n'allez pas me croire si je vous dis que à chaque fois que je dois jouer en persan, j'ai le plus peur. J'ai très peur quand je dois jouer en persan parce que c'est la langue qui me... Et c'est très difficile pour moi. Les interviews en persan, ça me terrifie. Je refuse la majorité des interviews en persan avec des Iraniens parce que c'est quelque chose qui me, comme dit Christiane, ça me ramène au mensonge, ça me ramène au code, ça me ramène à la société, ça me ramène à. Donc en fait, quand je joue dans une autre langue, quand j'écris dans une autre langue, même si je l'écris avec mes fautes de français, que je l'écris pas dans un très bon français, mais je suis étrangement plus libre.
Vous êtes étrangement plus libre.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
C'est beau.
Je suis plus libre. En fait, il y a plus de censure. Il y a plus de et surtout, c'est très important pour moi de vous dire que lors de ces stages que j'ai fait avec Loupa, parce que Loupa il travaille sur le fou de l'acteur lui-même. Il dit maintenant la langue de chien de quelque chose qui existe en toi et qui doit sortir de toi sans que tu le contrôles. Et c'est presque un endroit de transe chez les acteurs pour moi. Enfin, pour moi et pour lui, enfin pour tout le monde. Et ça a été le moteur pour moi qui m'a donné énormément la direction de l'écriture de cette pièce-là. C'est-à-dire comment je peux presque vomir mes mots. Comment je peux écrire ces mots sans avoir peur, sans avoir honte, sans avoir parlé de mon intimité, des choses qui sont même presque une honte pour moi. Mais comment je peux les transformer à une sorte de force?
C'est plus simple dans une langue étrangère.
Pour moi, oui. Mm. Pour moi, je préfère jouer dans une langue étrangère. J'ai énormément de facilité à jouer dans une autre langue que ma langue maternelle.
Et d'ailleurs, vous racontez deux choses intéressantes. Votre collaboration avec le musicien qui fait la musique de cette pièce, donc est retranscrite pour une part dans ce livre qui s'appelle Siavash Amini.
Oui.
Vous racontez avoir fait pour lui une première représentation via un téléphone portable, mais en farsi pour qu'il puisse comprendre ce qui se passait pour vous sur scène. Et vous racontez, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais que vous pouvez parler quotidiennement en farsi ou presque à votre famille, Mina Cavani. Donc il reste quand même une forme d'intimité qui est liée à cette langue-là. C'est pas que la langue du mensonge, c'est pas que la langue du semblant de la société. Ça aussi, c'est double.
Si, quand même, pour moi, c'est,
mais,
c'est la langue farsi, pour moi, c'est lié à la langue de mon enfance, ma famille, les codes, la culture, enfin, ma culture, la culture iranienne, tout ce que j'ai, en fait, moi, je n'ai jamais pu m'exprimer en tant qu'artiste en Iran, tel que aujourd'hui je m'exprime en France. L'Iran et les Iraniens ne m'ont pas donné cette possibilité de m'exprimer, d'être cet artiste que je suis devenue modestement aujourd'hui. Et donc, l'Iran, pour moi, la langue persane, pour moi, reste la langue de tout ce qui a été moteur de tout ce que je suis devenue aujourd'hui. La langue française, c'est la langue où ça m'a permis de m'exprimer, de que ce soit en tant qu'actrice ou que ce soit en tant, si je peux m'appeler autrice. Et donc je ne suis pas du tout la même personne quand je parle en farsi que quand je parle en français.
Il y a quelque chose aussi dans ce livre-là, Dérangé, qui n'est pas rangé, qui aime bien le bazar, qui aime bien le chaos, qui aime bien la fête, qui aime bien quand c'est dans les sous-sols, quand c'est en dehors des règles. Et toutes ces scènes de fête que vous racontez, Mina Cavani, on a l'impression que c'est aussi quelque chose qui, au-delà même d'avoir quitté un territoire, c'est comme si vous aviez quitté une manière de faire la fête. Et comme si cette manière de faire la fête, là, elle était difficile à retrouver.
Ah oui, je l'ai plus jamais retrouvé, ça. Ça, moi, j'ai toujours dit que je n'ai plus jamais fêté tel que j'ai fêté à Téhéran. Ça paraît très fou pour les gens, mais c'est vrai que je n'ai... en fait, c'est étrange, parce que en tant... Dans ma vie intime, j'étais très, très libre en Iran. C'est très étrange. J'avais quelque chose d'une... Parce que voilà, je cherchais ça, parce que je n'avais pas ça. Donc, mais dans ma vie artistique, j'étais très, très étouffée. Je me sentais très étouffée par toutes les contraintes qu'on avait avec la société. Et aujourd'hui, c'est devenu à l'inverse. C'est dans ma vie artistique qui est épanouie, qui peut s'exprimer. Et c'est ma vie intime qui est en exil un peu, qui est autrement que mes années en Iran. Ouais.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est un book club qui continue et qui a une nouvelle résidente tous les lundis à cette heure-ci dans le book club. C'est une rubrique qui s'appelle Lecture d'actualité. Je rappelle le principe, il s'agit de mettre en relation un fait d'actualité avec un ou plusieurs faits littéraires. Clémentine Mélois, c'est vous, notre nouvelle autrice en résidence au book club. Bonjour Clémentine.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition. Votre dernier livre s'appelle « Alors c'est bien ». Il a paru aux éditions Gallimard dans la collection Arbalète et vous étiez venu en parler ici. J'invite nos auditeurs à vous réécouter. Donc chaque lundi pendant 6 semaines, on vous a proposé de faire ce travail pour nous. Et dans votre première chronique, vous nous parlez de course au large, c'est-à-dire...
Hier à 11h39, la navigatrice de 23 ans Violette d'Orange a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Elle bouclait ainsi son premier tour du monde à la voile par les trois caps, en solitaire, sans assistance et sans escale, soit 45 000 km, parcourus par Violette d'Orange en 90 jours, 22 heures et 37 minutes. Alors malheureusement, je n'ai vu que des images de cette arrivée triomphale, mais mardi dernier, j'étais au Sable d'Olonne pour assister à l'arrivée de Jean Le Cam. C'était le doyen de cette édition. Il terminait ce jour-là son 6e Vendée Globe. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Jean Le Cam n'était pas seul lorsqu'il a fait son entrée dans le chenal des Sables d'Olonne. Il était accompagné par la foule des héros de récits d'aventures maritimes qui peuplent mon imaginaire de lectrice.
Et comme on sait que votre imaginaire de lectrice est vaste, et si tout le monde était là, si tous les héros de récits d'aventures maritimes étaient présents, ça devait faire pas mal de monde sur le quai avec vous.
Ça faisait pas mal de monde et je peux pas tous les nommer. Mais sur le pont de Tout commence en Finistère Armor Lux, le bateau de Jean Le Cam, étaient réunis des dizaines de personnages dans un mélange des genres tout à fait anachronique. Leur seul point commun est qu'ils avaient tous fait le déplacement depuis les rayonnages de ma bibliothèque et qu'ils portaient tous des bonnets parce qu'il faisait froid. J'ai reconnu en vrac des héros de Stevenson, de Jules Verne, de Pierre Loti, de Joseph Conrad et de Jack London. Paul Valéry et Georges Perrault m'ont fait un petit signe de la main.
C'est sympa.
Oui. J'ai aperçu Le Grand Marin de Catherine Poulain. Et à l'arrière du bateau, en pleine conversation avec Ishmael, le héros de Moby Dick, il y avait même Bernard Moitessier, pourtant mort en 1994.
Alors, est-ce que vous voulez bien nous rappeler qui était Bernard Moitessier ?
C'était un navigateur et un écrivain. Et en 1968, il a participé au Golden Globe Challenge, qui est la première course autour du monde en solitaire et sans escale, l'ancêtre de l'actuel Vendée Globe. Il était annoncé en tête, et tandis que tout le monde l'attendait sur la ligne d'arrivée, famille, gloire et fortune, il a décidé de prendre la longue route, c'est-à-dire de tout planter, de ne pas remonter l'Atlantique, d'abandonner la course et de poursuivre son voyage vers l'océan Indien. La longue route, c'est le titre qu'il a donné plus tard au récit de cette aventure en mer.
Et c'est un titre super bien choisi et c'est un titre qui fait rêver surtout.
C'est un titre qui fait rêver presque autant à mes yeux que cet autre puissant support de rêve que sont les reproductions de cartes géographiques qui accompagnent parfois les récits. Dans mon atlas littéraire personnel, il y a par exemple la carte de l'île au trésor de Stevenson ou celle de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des Anneaux. Mais ma carte préférée est celle de la chasse au Snark de Lewis Carroll. C'est un rectangle vide, simplement légendé, carte de l'océan. Georges Perec l'a d'ailleurs reprise au début de son essai « Espèces d'espace ». Il fut un temps où les vraies cartes n'étaient pas si loin de ce rectangle blanc. Au Moyen-Âge, les territoires inexplorés étaient indiqués par la mention latine « Hic sunt dracones »,« Ici sont les dragons ». Le voyageur était ainsi averti, s'il choisissait d'aller dans cette direction, il allait au-devant des dangers de l'inconnu. Alors depuis, les choses ont changé et on dirait que tout a maintenant été exploré et cartographié. Aujourd'hui, les robots rovers nous envoient des photos de Mars en HD, Thomas Pesquet tweet depuis l'espace, on peut en un clic et depuis son canapé se promener dans les rues de Dunkerque, puis dans le bush australien, et même repartir avec une vidéo souvenir de son endoscopie. Et face à cette saturation de savoir et d'images, je me demande souvent où retrouver de l'aventure et du merveilleux dans l'ordinaire de nos vies.
Et si vous avez la réponse à cette question, Clémentine, on serait vraiment mais très très heureux de la connaître en ce lundi de février qui enchaîne la grisaille pour nous, donc allez-y.
Alors peut-être, Marie, que pour retrouver du merveilleux, il suffit d'embarquer imaginairement avec les navigateurs et les navigatrices du Vendée Globe, se laisser prendre pour ainsi dire au roman qu'ils nous proposent. Ces explorateurs des temps modernes se risquent à notre place, là où sont les dragons. Ils montent pour nous en haut du mât pour réparer des avaries. Ils mangent du pâté Hénaff pendant 3 mois et dorment quand ils peuvent, entre 2 icebergs. Pendant ce temps, grâce à eux, on peut faire comme quand on lit Melville, plonger sous nos draps, dans les abysses, et s'inventer des histoires bien au chaud, tandis qu'au dehors, la tempête, c'est-à-dire l'infini, fait rage inutilement.
Merci infiniment, Clémentine. On va essayer de suivre votre conseil.
Merci à vous, Marie. Et comme dirait Jean Le Cam, à plus dans le bus.
Je savais pas que c'était lui. Moi aussi, je dis tout le temps à plus dans le bus. Et on mettra toutes les références de vos héros maritimes qui vous accompagnaient sur la page Lecture d'Actu. À lundi prochain. À cette heure-ci, dans le Book Club, on joue au grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe. Il s'agit de trouver de la musique dans les livres. Voilà. Donc, quand nos auditeurs et auditrices voient de la musique apparaître dans un livre, hop, ils font une photo, ils nous l'envoient via le compte Instagram du Book Club ou alors à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Et parfois, nous jouons aussi à ce grand jeu et on a trouvé de la musique dans votre livre. Mina Cavani, il y a aussi de la musique sur scène pour les gens qui viennent vous voir, presque de la musique tout du long. Mais là, c'est une évocation de toutes ces personnes justement à qui vous demandez s'ils vont partir ou rester, et il y a un groupe de musique au milieu d'eux.
Kuri, tu es un ami à la maison. Oui. Allez, on a un nom de la
chine. Parfois, je me dis que si je faisais une interview avec toutes ces personnes que j'ai connues à Téhéran, je leur poserais la question suivante. Toi, qu'est-ce que tu vas faire demain? Tu pars ou tu restes? Lui, par exemple, il te répondrait « Moi, je vais partir dans 2 mois, à Londres, pour faire de la musique. » Et je pense que dans sa tête, il se voit comme un héritier des Pink Floyd. Ou elle, elle te dirait qu'elle voudrait faire sa première grande exposition au Centre Pompidou à Paris. Et eux, les Yellow Dogs, ils te diront « Nous sommes un groupe de musique. Notre groupe s'appelle Yellow Dogs. Nous avons joué dans Les Chats Persans de Bahman Gobadi. Alors nous sommes attendus en dehors de l'Iran. Nous sommes déjà sur la liste noire. On va partir à New York. Là-bas, on fera une demande d'asile et on pourra faire notre premier immense concert. On fera de notre groupe de musique un des groupes les plus connus du monde. »
Et quant à moi, je veux partir à Paris. Je vais tout déchirer là-bas. Avec les Yellow Dogs qu'on termine et qu'on embrasse bien fort, n'est-ce pas Mina Cavani?
Ah oui, je les embrasse très fort, même si hélas,
bien sûr,
il y en a deux qui sont mortes.
Absolument, dans une autre histoire terrible qui s'est déroulée à New York. On était ravis de vous recevoir dans le Book Club pour ouvrir cette série sur littérature terre d'exil. Votre livre s'appelle « Déranger l'exil au bord des lèvres », paru aux éditions du Faubourg. Au son aujourd'hui, c'était François Saint-Jour. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Cyril Marchand, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Louise Hott, Mathilde Wagman et Alexandre Alaï-Begovic, avec qui vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club. Said we should get it all together.